Pays Minikersi Mater, aujourd'hui Carole Stanitsky, pour présenter le témoignage que nous allons diffuser, qui est le témoignage de monsieur que vous avez rencontré l'été 2010, après l'appel à témoignage lancé par le service inventaire du patrimoine du Pays Minikersi pour retrouver des témoignages de bâtisseurs en terre crue. Et vous êtes allé avec un enregistreur rencontrer ce monsieur, au départ pas pour faire du son, c'est pour recueillir des notes, c'est pour ça que les qualités d'enregistrement n'étaient pas votre préoccupation, il s'agissait de rien rater.
Exactement. Voilà, c'était plus facile de l'enregistrer plutôt que de tout noter. Sans ça, il m'aurait fallu une dizaine de copies. Et comme ça, on ne rate pas une miette par le biais de l'enregistrement numérique.
Alors, c'est ce qui explique que dans l'enregistrement que nous allons diffuser, il n'y a pas la préoccupation de s'arrêter quand il y a un tracteur qui passe, puisque vous êtes sur, vous allez nous raconter les circonstances.
Hein,
vous êtes sur la place du village, il continue à parler, il y a quelqu'un qui arrive, on lui dit bonjour, il y a des oiseaux qui chantent. Bon, il y a toutes les conditions de l'enregistrement où on a posé l'enregistreur et puis on converse.
Exactement. En fait, j'étais accueilli chez Monsieur et Madame Boudet, dans leur maison. Et on était dans la cour, en effet, en extérieur. Donc c'est pourquoi on entendra pas mal de bruits parasites, c'est vrai. C'est un Louis Boudet, c'est une personne que Anaïs Cobet, ma collègue, a rencontrée, car en ce moment, elle fait l'inventaire de Verlactescu. Donc c'est elle qui la première à rencontrer ce monsieur-là.
Donc on est dans la commune la plus au sud du pays Midi-Quercy.
Exactement.
Du Boulben, des vallées déjà.
Voilà, tout à fait. Et c'est un territoire qui est richissime en matière de construction en terre. Et Louis Boudet, qui était maçon, a lui-même beaucoup travaillé dans ce secteur autour de Nègrepelisse et Verlac. En revanche, il n'a pas énormément construit en terre. Hein. Ses souvenirs remontent à 70 ans, puisque c'était dans les années 40. Par contre, il a la mémoire des anciens bâtisseurs, il a vu construire, et donc c'est ça qu'il me raconte dans son entretien, et c'est passionnant de comprendre quelle terre ils utilisaient, justement la fameuse terre de Boulben qui est là dans la vallée du Tescou. Comment est-ce qu'on utilisait cette terre, comment est-ce qu'on fabriquait les briques, combien de temps il fallait pour qu'elles sèchent. Il explique tout ça en détail avec une terminologie précise, en fait, des mots de patois quelquefois. Et c'est riche, c'est très riche.
Et alors, le gros de son activité de maçon, c'est la reconstruction après-guerre, quand on se met à rebâtir. Et quelquefois, la terre, il la connaît parce que, ça tient pas, fallait mettre des clous, du grillage, et puis on faisait un crépi devant. C'est-à-dire, ce que vous aborez, vous, en tant qu'historienne, qui cherchez, en fait, à dater les constructions, vous vous retrouvez avec des crépis, et derrière, vous savez qu'il y a de la terre.
Ah, exactement. Et ça, c'était intéressant aussi de lui poser des questions là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné les constructions en terre? Et comment est-ce que lui, justement, après-guerre, intervenait sur ce type de maison. Et en effet, bon, il y a quelques interventions qui, aujourd'hui, on peut trouver contestables, en effet, à ajouter du grillage, à redresser des murs en terre massive qui ont un fruit très important à la base. Il les a redressés.
Le fruit, hein, c'est quand c'est pas vertical, quoi. C'est plus large à la base qu'au sommet. Bon, pour être sûr que le mur tienne, on le fait en retrait. Et puis, ça économise de la terre.
Hein. Mais justement, on en utilise une grande quantité à la base, mais après ça ne plaisait pas en fait d'avoir des murs qui partaient comme ça
oui,
en oblique.
Parce que l'armoire elle était verticale elle.
Exactement, sauf que Louis Boudet dit très justement que c'était bien commode pour passer le balai derrière et attraper les toiles d'araignée. Mais bon, la mode n'était pas à ça, et en définitive, la mode était à redresser ces murs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, sur le terrain, les fermes en terre massive qui ont été redressées, il est très difficile de les identifier, parce qu'entre le mur redressé et l'enduit,
il n'y a que l'accès au comble. Vous permet de voir le haut des murs quand on peut.
Alors, même pas, parce qu'en fait, il n'y a jamais de terre massive dans les combles, puisque les murs en terre massive, ils n'excèdent pas 2,50 m, de façon très rare. On en a pu en rencontrer à 4,50 m de haut, mais c'est une exception. C'est sur un château, d'ailleurs, à Puygaillard de Quercy. Mais d'ordre général, c'est autour de 2,50 m. Donc dans les combles, c'est plutôt de la brique de terre crue, c'est plus de la terre massive.
Alors bon, on dit toujours, je me souviens d'un architecte directeur du CAE qui nous disait bien chaussé, bien couvert, hein, un chapeau et des bottes pour la terre crue. Il y a quelque chose qui probablement dans les années, à partir des années 40, a sonné le glas de la terre crue. C'est non seulement le ciment industriel fabriqué en grande quantité, mais aussi une date fatidique dans nos territoires, c'est le 3 mars 1930. C'est sûr que dès que ça a pris l'eau, moi je me souviens de témoignages de gens qui disaient en pleine nuit on entendait tomber les maisons.
Oui, absolument, ça fond, ça peut fondre comme du beurre. Et c'est vrai que là, après la crue de 1930, il y a eu énormément de reconstructions, ben, non pas en terre, mais en parpaing de béton ou alors en béton banché. Mais après cette fabrication en petits parpaings de béton, ça restait encore à cette époque-là une fabrication artisanale. C'est exactement le même principe que la brique de terre crue. Et il y a également un moule, mais sauf que dans le moule, au lieu de mettre de la terre, on mettait un mélange de béton et de gravier.
Voilà. On était loin du paillabart.
Oui, oui, bien sûr.
Vous avez appris des mots avec Monsieur Boudet à l'occasion de ce témoignage?
Oui, certains, pour le torchis, entre autres, il appelle ça tourtisse. Le nom en patois, c'était ce mot-là que je ne connaissais pas. Oui.
Alors, c'est l'occasion quand même de relancer un appel. Hein. On ne demande pas des témoignages de conférenciers. Voilà, c'est du vécu que vous voulez recueillir et, si possible, retrouver des moules qui ont servi à fabriquer des briques en terre crue, et puis simplement des souvenirs, de témoignages, de comment on s'y prenait. Moi, par exemple, je suis très curieux de voir comment étaient les échafaudages. Est-ce qu'on se fatiguait à monter de grands échafaudages quand, après tout, on n'allait pas plus haut que 2,50 m?
Sur les constructions, quand il y avait des échafaudages, on peut le lire aisément hein, sur les murs, puisqu'il reste des trous de boulins dans lesquels on fichait les poteaux des échafaudages. Donc au-dessus d'une certaine hauteur, à partir du moment où on voit ces trous, c'est qu'il y a eu échafaudage. S'il n'y a plus de trous, c'est que soit ils ont été masqués, a posteriori par l'enduit, ou alors il n'y a pas eu d'échafaudage si la construction était en effet suffisamment basse.
Oui, c'était des tréteaux, puis voilà.
Ouais, probablement.
On va lancer cet entretien. Alors, on vous entend poser des questions dans des conditions matérielles qui sont loin d'un reportage bien léché où on aura enlevé tout ce qui ne va pas, puisque là, l'intérêt, c'était de recueillir la parole de la personne que vous interviewez. C'est Carole Staniski pour le service inventaire du patrimoine qui rencontrait Monsieur Louis Boudet.
Voilà, à Verlac-Tescou, c'était le 16 août 2010.
À Nègrepelisse, vous m'aviez dit au début que vous aviez fait combien de chantiers?
Deux ou trois chantiers, surtout un, enfin, je me rappelle où c'est, mais les autres, j'ai perdu un peu le...
Vous pouvez me montrer où c'est sur la carte?
C'est ici. Et l'autre était de ce côté-là, mais je me rappelle pas. Hein. Et puis en ville aussi. Avec le patron où je travaillais, c'était pas moi qui... J'étais apprenti là encore. Mais là, je sais qu'on a bâti des murs de terre, là. Aux autres endroits, on a bâti, mais je ne me rappelle pas beaucoup. Quoi. Enfin,
Les murs en terre, c'est des briques que vous aviez construites ou des briques que vous aviez récupérées?
C'est le bonhomme qui avait récupéré les briques. Il avait démoli des vieux murs, quoi, pour pouvoir faire un mur en travers, quoi, je me rappelle, pour fermer un local. Quoi, enfin.
Vous aviez dû refaire un mortier de terre, j'imagine.
De terre,
et
au
départ. Comment vous faisiez ce mortier de terre?
Par terre, là, on mettait une pile de terre. On faisait un trou, de l'eau, et pas trop, et on mélangeait tout.
D'où elle venait, la terre?
Des ambilons, là.
Sur place, à côté de cette maison,
oui,
en fait.
À côté de cette maison, oui.
Dans ce mortier, est-ce qu'il y avait de la paille ou de la balle de grain, ou il n'y avait que de la terre?
Que de la terre, au début. Mais après, on a mis des choses, des balles de blé aussi. L'enveloppe du blé, on récupérait ça, là, quand il y avait les moissons, quoi. Enfin,
d'accord.
On mélangeait ça à la terre, quoi. Enfin,
pour le mortier, oui. Et pour les briques, c'est la même
et
chose.
Après, les briques, elles se faisaient avec la terre malaxée, comme ça, là. On la mettait dedans, et on l'a tirée avec on le mettait, et après, on mettait une chose pour égaliser, quoi. Après... On le faisait sur place, mais avant on mettait un lit de ces balles de blé pour que la terre ne colle pas au sol. Vous voyez. On le posait le moule, on le remplissait, on le sortait, on le mettait à côté, ainsi de suite, sur une surface plate.
Et vous les faisiez sécher combien de temps comme ça?
Il faut les 3 ou 4 jours, je sais. Ça dépend du temps. Hein. Le plus embêtant, c'est quand il pleut.
Quand il pleut, bien sûr.
À l'époque, il n'y avait pas de plastique. Il n'y avait que du gras sur le nez ou des bâches en toile, quoi. C'est légèrement, quoi.
Et donc, pour les faire sécher, elles n'étaient pas abritées.
D'accord. Il fallait beaucoup de local. L'une à côté de l'autre, ça prenait beaucoup de place.
Et pour les faire sécher, est-ce qu'elles étaient à un moment redressées, ces briques de terre crue, ou toujours allongées?
Elles étaient à plat, quoi.
À plat.
Et après, une fois sèches, on les mettait sur le champ. L'une à côté de l'autre. Et là, elle finissait de sécher, quoi, si.
Quand vous étiez apprenti maçon, est-ce que vous vous souvenez du nom de l'entreprise de maçonnerie avec, pour laquelle vous travailliez à cette époque, dans les années 40 ? Vidal, d'accord.
Le petit entreprise, on était trois.
Et cette entreprise, elle a continué après à travailler la terre ou elle est passée à d'autres matériaux
Non, pas la terre. Après, ils ont continué comme travailler avec les briques, quoi. Avec des briques cuites.
Avec des briques cuites.
Une fois, on a piégé un jeune. Voilà. Parce que les briques en terre, elles sont sèches à l'habitude. Quand elles montent comme ça, la chose. Alors, on lui a dit, demain, là, pour les bâtir, il vaudrait mieux qu'elles soient humides, parce qu'autrement, la terre, elle ne va pas coller. Alors, il a pris une chose d'eau. Là, il les a mis à tremper, parce que comme ça, elles seraient humides. Alors, le lendemain, on se met à bâtir. Allez, tu nous fais passer ces tuiles, quoi, ces choses. Il va dans l'eau, comme ça. Il n'y avait plus rien. Elle s'était fondue. Il n'y avait que la chose au pont. Elle s'était attrapée. Il n'avait pas réfléchi la veille que ça risquait de
fondre. En 40-50, il n'y avait pas de maçon qui allait chercher la terre à un endroit et bâtissait en terre. C'était déjà fini. Et cette truelle,
elle est vieille.
Elle a l'air vieille, oui.
Et donc, moi, je m'en suis pas beaucoup servi.
Mais on pouvait faire un enduit à la terre avec cette truelle aussi.
Oui, mais alors, il prenait la terre, enfin, la chose, il a collé et il a...
D'accord.
Il a passé comme ça, quoi. Il l'a aplatissé contre les murs. La terre, on ne peut pas la jeter.
D'accord.
Parce que la terre colle sur... Ah oui, oui. Il faisait les ennuis avec ça. Et après, nous, sur la terre, on était obligés de mettre des pointes de quelque chose pour faire tenir la chaux après sur cette terre. Parce que autrement, ça ne tenait pas. Des pointes ou alors du grillage, vous voyez, sur les murs de terre, bien fait comme ça, quoi.
Je me fais vieux, j'ai 60 ans, j'ai travaillé toute ma vie, vieux, sans avoir depuis tout ce temps pu satisfaire mon envie, vieux. Je vois bien qu'il n'est ici-bas de bonheur complet pour personne. Mon vœu ne s'accomplira pas, je n'ai jamais vu Carcassonne. On dit qu'on y voit tous les jours, ni plus ni moins que les dimanches, des gens s'en aller sur les cours, en habit neuf, en robe blanche. On dit qu'on y voit des châteaux grands comme ceux de Babylone. Un évêque et de généraux, je ne connais pas Carcassonne. Le vicaire a 100 fois raison, c'est les ambitieux que nous sommes. Il disait dans son raison que l'ambition perd les hommes. Si je pouvais trouver pourtant 2 jours sur la fin de l'automne, mon Dieu, que je mourrais content après avoir vu Carcassonne. Mon Dieu, pardonnez-moi si ma prière vous offense. On voit toujours plus haut que soi, en vieillesse comme en enfance. Ma femme avec mon fils saignant a voyagé jusqu'à Narbonne. Mon filleul a vu Perpignan et je n'ai pas vu Carcassonne. Ainsi parlait près de Limoux un paysan courbé par l'âge. Je lui dis, ami, levez-vous, nous allons faire le voyage. Nous partîmes le lendemain, mais que le bon Dieu lui pardonne. Il mourut à moitié chemin, il n'a jamais vu Carcassonne.
Pays Midi Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Témoignage d'un maçon sur les constructions en terre crue autour de Nègrepelisse. Enregistrement de M. Louis Boudet, réalisé par Carole Stanitsky, du service inventaire au Pays Midi Quercy, le 16 août 2010, à Verlac-Tescou.
La terre, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. On a enlevé cet ennui de terre. On a enlevé tout.
Et pourquoi ?
Le plâtre ou la chaux ne tenait pas là-dessus. Parce que c'était pas le même. C'est-à-dire que la terre était détrempée, elle était trop... Je ne sais pas comment vous dire, elle n'était pas dure comme les briques.
Comment est-ce qu'on mélangeait la terre
on
avec quoi?
Une espèce de cerclette, enfin de choses, où tout était bien, pieds nus. Hein.
Avec les pieds.
Les anciens faisaient... Ça malaxait, là.
Des animaux ne pouvaient pas malaxer la terre aussi?
On se servait des animaux pour... Pourtant, c'est la terre sur les chemins. Les moutons, et les moutons parce que ça...
Ça piétine.
Oui, ça piétine.
Ah, d'accord. Je suis passée tout à l'heure voir l'église de la Vinouse. Elle est bâtie en terre, cette église.
En terre, oui.
Mais c'est encore une autre technique. Ce n'est pas de la brique de terre crue, c'est moulée.
Ah, oui, la fameuse torchis, le paliobart.
Enfin, en patois, c'est comme ça.
Et de la terre, ça veut dire. Le bart, en patois, c'est la terre. La terre molle, quoi. On bâtissait ça, comme ça. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Alors, on mettait de... Enfin, on mettait... C'est pas moi, hein. On mettait des tiges de bruyère. Bruyère, se pourrit moins que les autres matériaux, quoi. Au bois, quoi. Mm. On le mettait à l'allonger, on mettait de la terre, on remettait de... Mais on ne pouvait pas bâtir... Il fait 30 cm, pas plus. Il fallait laisser sécher. Puis...
Est-ce que c'était contenu dans des banches en bois? Non.
Tout ça, ce que j'ai vu, les murs que j'ai arrangés, quoi, parce que comme ça, on n'avait pas de traces de coupage. Alors, celui-là, si une hauteur de 1,50 m de plafond,
oui.
Eh bien, il y avait au moins 30 cm. Hein. Des fois à plomb. Et alors, pour les arranger, on venait au rang en haut et on descendait d'aplomb. Moi, on a discuté encore hier. Là. J'ai dit à un bonhomme, là, je lui disais, pourquoi tu l'as fait arranger? Parce que quand tu as un meuble contre le mur, en haut, il ne touche pas. Comme ça, on peut passer le balai s'il y a des toiles d'araignées. Ils ont amélioré l'habitat, quoi. Enfin, mais les murs à la base faisaient au moins 1,20 m ou 1,30 m à la base. Allez, les murs en 1 mètre quelques là, il n'y a pas de fondation.
Il n'y a pas de fondation.
C'est bâti dessus comme ça là. Mais en bas à la base, c'est de la boulevaine qu'ils appellent. C'est sablonneux, vous voyez, c'est la terre un peu. Et alors elle est dure, quand elle est sèche, elle est dure comme.
Cette terre de Boulben, c'est une terre qui était bonne pour bâtir. Alors.
Ah oui, et là, il n'y avait pas beaucoup de fondations à la Boulben. C'est sablonneux, alors le sable, lui, il est incompressible. Voilà, ça. Mais nous autres, on a des murs là-bas, il n'y a presque pas de fondations. Bien souvent, ils mettaient de la pierre dedans, ou des vieilles briques, dans la terre. Alors, à plat quand même, c'était...
Et alors ça, on faisait ça, des fondations sous terre, et en plus, par-dessus, on faisait un soubassement.
Il existait des briques cuites. On faisait ça à peu près de hauteur, après, sur la terre. On bâtissait avec ça, et après la terre au-dessus. Comme ça, l'humidité montait moins. Là. Et c'était plus solide en bas, quoi. Ça, c'est un moule à peu près, je crois qu'il y en a partout. C'est là.
Un standard, vous voulez dire?
Oui.
29, 42, et de profondeur, ça fait
5. Moule, on peut le faire comme on veut. Hein.
Vous disiez que le premier chantier à Nègrepelisse, c'était en 1941.
31, même plus tard. Hein. C'était en 32, 33, ou 33 presque. Parce que j'ai fait 2 ans et demi dans une ferme. Je gagnais 100 francs par mois. À la terre.
Oui.
La deuxième année, 200 francs par mois. Je suis allé apprenti maçon, je gagnais 100 francs par jour. Dans cette ferme, il est venu un maçon, refaire la toiture, et puis arranger, et puis je lui ai aidé. Et c'est de là que...
Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de construire en terre?
Je ne sais pas, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas sur la terre. Parce que quand on a bâti de la terre, comme ça, les murs, la première année, il y avait quelque chose qui... Ça se fêlait, ça se fanait, ces choses. Dans les premières années, après c'était fini, une fois que c'était assis. Les premières années, ça travaillait toujours. Hein.
Ça, c'est plus...
Il y avait une briqueterie importante à Saint-Étienne-de-Tulmont. Vous en avez entendu parler ?
Non.
Et à Montclar-de-Quercy aussi, il y avait une briqueterie.
Je me servais là, moi, d'ailleurs. Oui, il avait un grand four, là. Enfin, même elle était bonne, la briqueterie. Hein.
Elle était de quelle couleur ?
Ça dépendait un peu des endroits où ils sentaient la terre, quand même, un peu. Mais et principalement, elle était blanche.
Il la sortait d'où, la terre ? Dans l'énorme falaise qu'on voit derrière ? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y avait une période pour construire en terre ?
En hiver, seulement. Si gelé, ça n'est pas. Quoi.
Avec quel outil on extrayait la terre ?
La pioche.
Avec la pioche, tout simplement. Est-ce que d'autres personnes auraient bâti en terre, à votre connaissance ?
Oh, non.
Dans le métier de maçon, vous...
non, ici, non.
Ici, non. En patois, comment on appelle cette construction-là ?
On appelle ça des mules à colombac. Mais en patois, c'est des tourtisses. Des tourtisses.
Et en patois, la brique de terre crue, comment on l'appelle ?
Des théolos.
Midi-Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Alors dans ce témoignage, on entend Louis Boudet qui sans cesse s'excuse de mal s'exprimer, de parler un mauvais français, de ne pas se souvenir, de ne pas terminer ses phrases également. Mais en définitive, ce témoignage est riche en informations et c'est une bonne transmission des savoir-faire.
Et donc c'est un témoignage que vous avez recueilli, que vous gardez dans les archives du service inventaire, parce que effectivement, sur ces techniques de construction, il y a très peu d'écrits. C'est ce que vous disiez tout au long de cette série d'émissions. C'est très dommage qu'on ait perdu cette transmission, parce que les écoles ont arrêté de former des maçons en terre crue, parce que c'était moins noble que de savoir vite aligner des briques. Hein, finalement, au milieu du XXe siècle. Et aujourd'hui, ce sont de jeunes maçons qui reviennent à la manipulation de l'argile, aux enduits, à la beauté des choses, et surtout aux capacités phénoménales qu'a la terre.
Absolument. Tout est une histoire d'oralité. Il n'y a pas de transmission écrite, hein. C'est oral. Donc en effet, les témoignages des personnes qui ont vu faire ou qui ont construit sont capitales.
Et donc on continue à enquérir. Si vous voulez contacter le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy, je suppose que une historienne de l'art pourra venir vous voir dans les communes pour lesquelles il y a cet inventaire prévu, puisque c'est pas fini l'inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy.
Non, non, c'est pas fini. On poursuit avec les communes de Réalville en ce moment et de Casal.
Ah, Casal, il y aura de la pierre, absolument. Mais Réalville, il y aura de la terre. Merci Carole Stanitsky.
Pays Midi-Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire. Retrouvez Pays Midi-Quercy, ma terre dans tous ses états, le mardi à 12h30 et le samedi à 18h.